Alors pour Yudina, c'est autre chose. Yudina, on sait qu'elle avait un caractère épouvantable. Staline aurait certainement pu, à une certaine époque, la faire disparaître, comme il aurait pu faire disparaître d'autres artistes. Il aurait même pu faire disparaître Prokofiev. Ça, c'est une grande question. Les relations qu'entretient Staline avec les arts et les artistes, et donc là, les musiciens en particulier, sont toujours dictées par un calcul politique.
Comment est-ce qu'ils ont pu la laisser passer? Et je crois, mon explication, je crois, c'est que il y avait la peur d'un personnage qui n'a pas peur. Dans un pays de terreur, qui était évidemment l'Union soviétique sous Staline, quelqu'un qui n'a pas peur, quelle prise est-ce qu'on peut avoir sur lui? C'est impossible. Et il y a la fameuse histoire, également rapportée par Shostakovich, cette histoire invraisemblable. Elle a joué à la radio. À la radio, le concerto en ré mineur de Mozart, avec un orchestre qui était dirigé par Alexandre Gauck. C'était une retransmission directe. Et il se trouve que Staline, qui était un personnage nocturne qui vivait la nuit, a entendu cette retransmission et a appelé, comme tout bon dictateur, directement, personnellement, le directeur de la radio, pour lui demander s'il existait un disque de ce concerto Mozart joué par la dame qui le jouait. Le directeur de la radio, effrayé par le fait d'avoir un coup de téléphone de Staline, a bien entendu dit que le disque existait. Staline a demandé que le disque lui soit apporté dans son bureau dès le lendemain, au Kremlin. Il n'y avait pas de disque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'enregistrement, c'était une transmission directe non enregistrée. Et donc le directeur de la radio a convoqué dans la foulée l'orchestre, le chef d'orchestre, et Maria Yudina pour revenir dans le studio, enregistrer le disque, faire ouvrir dans la nuit les usines de pressage de disques, l'usine qui presserait aussi l'étiquette. Tout ce monde-là a été mis en alerte. Yudina est revenu et a joué tranquillement son concerto de Mozart. Le premier chef d'orchestre qui avait été reconvoqué a eu une telle panique qu'il a dû être évacué. On a fait venir un deuxième chef d'orchestre, finalement un troisième, parce que l'un après l'autre, ils étaient morts de trouille. Et donc l'enregistrement a eu lieu pendant la nuit. Pendant ce temps-là, le pressage de l'étiquette et du disque en un unique exemplaire a été préparé, apporté sur le bureau de Staline dès le lendemain. Sur quoi Yudina a reçu une lettre de Staline, accompagné d'une somme de 20 000 roubles. Il faut mettre ça en perspective. 20 000 roubles, on ne sait pas ce que ça veut dire aujourd'hui, bien entendu. Le cachet des plus grands artistes soviétiques de l'époque, le cachet des Oistrakh et Mravinsky, le cachet, disons, de la plus haute, du plus haut degré de la hiérarchie des artistes du peuple, était de 200 roubles. Staline lui envoyait 20 000 roubles, c'est-à-dire 100 fois plus qu'un cachet habituel pour un concert.
Et 200 roubles par rapport à la vie quotidienne du citoyen soviétique moyen, c'était...
Je crois que à l'époque, ça devait être aux alentours de 120 roubles par mois. Donc c'est quelque chose d'absolument considérable, ce qu'elle a reçu. Et sa réaction a été toute simple. Elle a envoyé une lettre à Staline, que je cite à peu près littéralement. Camarade Staline, je vous remercie de l'attention que vous m'avez apportée, de l'aide que vous fournissez. Je vais consacrer les jours suivants à prier le Seigneur pour qu'il pardonne les crimes que vous avez commis envers notre peuple et notre pays. Le Seigneur est miséricordieux, il vous pardonnera. Quant aux 20 000 roubles, je les ai fait parvenir à ma paroisse pour la reconstruction de la paroisse et pour que tous les paroissiens se joignent à ma prière.